Je vous invite à tourner avec nous, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22. Alexandre va nous lire la parole de Dieu à partir du verset 34. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, vous voudriez suivre, juste lever la main, les placeurs vont vous apporter une Bible. Tournez dans Matthieu, chapitre 22, au verset 34. Juste lever la main si vous avez besoin d'avoir une copie des Saintes Écritures. Alors, on va écouter la parole de Dieu, Matthieu 22, 34 à 40.
Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
Merci. On va prier ensemble. Éternel mon Dieu, nous sommes assemblés ce matin pour écouter ta parole parce que nous croyons qu'elle est inspirée par toi. Lorsque nous écoutons, Seigneur, ces pages lues, c'est ta voix que nous entendons. Et Seigneur Jésus, nous avons connu que le bonheur se trouve auprès de toi, nulle part ailleurs. Cependant, nous avons besoin que tu touches nos cœurs, Seigneur, pour que nous parvenions à vivre selon ta parole. Ces paroles, Seigneur, sont sévères. Ces paroles sont hors de portée pour nous. Aimer en tout temps, aimer constamment, Seigneur. Des fois, je me sens tellement étranger à ces sentiments-là. Il me semble parfois, Seigneur, qu'il y a tellement de colère dans mon cœur, il y a tellement de jugement ou d'indifférence à ton égard, Seigneur. Comment vivre ces choses? Seigneur Jésus, c'est auprès de toi que se trouve la source de la vie. Viens nous saisir par ton Esprit Saint ce matin, afin que nous sachions comment vivre ta parole au quotidien, dans nos foyers, au travail, dans nos relations, dans l'Église, et que le monde sache, Seigneur, que nous t'appartenons et que tu es vivant. Père, je te prie d'être avec moi, avec ma bouche, avec mes pensées, et avec ma vie, Seigneur. Que ma vie soit digne de toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever chaque matin et à attaquer votre journée? C'est quoi votre motivation lorsque vous vous levez le matin puis que vous décidez d'entamer votre journée, que ce soit pour partir au travail, que ce soit pour prendre soin de la famille, que ce soit pour aller à l'école? Qu'est-ce qui te pousse à te lever et à attaquer une nouvelle journée? Qu'est-ce qui te motive dans tes journées? Et je sais qu'on ne se pose pas ces questions-là tous les jours. En général, nous nous posons ces questions lorsque ça commence à aller mal. C'est vrai? Lorsqu'on est un peu fatigué, un peu blasé, là, on commence à se poser ces questions-là et se demander « Pourquoi est-ce que je devrais attaquer une autre journée? Pourquoi je devrais continuer? Pourquoi je devrais continuer à aller de l'avant? » Lorsque la santé va moins bien, lorsque la santé ne suit pas, quand les relations sont plus difficiles, quand il y a des embûches, des contrariétés, quand on commence à être blasé un peu, c'est dans ce moment-là qu'on commence à se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui me pousse à me lever? Pourquoi est-ce que je devrais continuer à aller de l'avant? Si vous aviez posé la question à Jésus, qu'est-ce qu'il vous aurait répondu? Il vous aurait dit, ce qui me pousse à me lever chaque matin, c'est mon amour pour Dieu et mon amour pour mon prochain. Chaque jour. Chacune de mes journées, et Dieu sait que ces journées étaient pleines et fatigantes et épuisantes, chacune de ces journées était vécue par amour pour Dieu et pour son prochain. Et j'aimerais ça, juste qu'on prenne le temps de réaliser que Jésus était humain. Des fois, on a l'impression que Jésus a vécu 3 ans sur la terre. Non? Et comme il est arrivé, Bima Scotty, il est arrivé ici. Il a vécu 3 ans très intenses. Pouf, il est reparti. C'est comme irréel. Jésus était le fils d'un charpentier. Fait que vous savez, le day-to-day, là, gougoune, boulot, dodo, Jésus l'a vécu. Et c'est pas parce que les charpentiers avaient des gougounes au lieu d'avoir des capes d'acier qu'ils travaillaient moins dur, d'accord? C'était un gars de la construction, Jésus. Et pendant des années, il a vécu juste le rythme de la vie familiale. Il n'y avait pas de CSST, pas de 4 % tu travaillais tout le temps. Tu ne commençais pas à 18 ans, pas de carte de sécurité, rien. Tu étais en construction, tu travaillais, et dès que tu étais capable de prendre quelque chose pour couper du bois, ton père le mettait entre tes mains, tu commençais à travailler. Tu arrivais le soir, il fallait s'occuper des frères et sœurs. Il y avait des frères et des sœurs. Jésus a vécu le day-to-day, la quotidienneté, ce qui devient blasant. Jésus a vécu tout ça. Avant d'entrer dans la phase de son ministère public de prédicateur itinérant, Jésus a vécu tout cela. Donc, il savait ce que c'était de se lever le matin et de dire, « Bon, OK, pourquoi on l'a fait celle-là? Pourquoi on recommence ce matin? » Soit dit en passant, il y avait juste une journée pour se reposer dans ce temps-là. Se reposer en allant adorer Dieu, tout ça. Jésus a vécu tout ça. Ensuite, il a commencé son ministère public avec des journées qui étaient certainement encore plus épuisantes, où ta vie privée disparaît complètement. Il faut que tu te sauves dans le désert pour avoir la vie privée. Tu ne fermes pas la porte de ta chambre. Tu n'en as pas de chambre, tu n'as pas de lit. Tout ce que tu fais, c'est que tu voyages jour après jour dans un ministère public. Mais il faut réaliser aussi que Jésus faisait tout ça en sachant que ça allait se terminer par la croix. Voyez-vous, nous, on se dit, ben, si ça va bien, Jade et Bastien, mes enfants, vont avoir des enfants avant que le Seigneur vienne me chercher. Et je vais entrer à un certain moment donné dans une autre phase de ma vie où je vais profiter de voir mes petits-enfants, tout ça. Mais qu'est-ce qui te motive lorsque le but de ton existence, c'est de vivre 30 ans en silence, 3 ans public, on finit avec la croix? Admettons là, que Dieu vous dirait à vous, il te reste 3 ans, puis on va finir ça crucifié, OK? Qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin? Moi, je n'anticipe pas personnellement la crucifixion comme fin de la course. Mais qu'est-ce qui le motivait à chaque jour? Si vous lui aviez demandé, Jésus vous aurait dit, c'est mon amour pour Dieu et mon amour pour mon prochain. Et c'est ça qui motivait Jésus chaque jour où il avançait. Et je pense qu'on pourrait résumer les versets qu'on vient de lire ce matin en disant, selon Jésus, l'amour pour Dieu et pour mon prochain doit être notre motivation principale dans la vie. Si on veut rendre ce texte-là plus concret, mon amour pour Dieu et pour mon prochain doit être ma motivation principale dans la vie. Regardez comment Jésus termine son échange avec des docteurs de la Bible, d'accord? Il dit, il y a 2 commandements principaux, l'amour pour Dieu et pour le prochain. Maintenant, c'est le verset d'ensuite qui m'intéresse. Regardez dans vos Bibles ce qu'il dit. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Maintenant, cette expression-là, quand Jésus dit la loi et les prophètes, de manière concrète, il est en train de dire toute la Bible, d'accord? À cette époque-là, le Nouveau Testament commence avec les Évangiles, l'histoire de la vie de Jésus, donc le Nouveau Testament n'est pas écrit. La loi et les prophètes, c'est une manière de dire tout l'Ancien Testament. Alors, en d'autres mots, Jésus est en train de dire toute la Bible dépend de 2 commandements. En d'autres mots, tout ce que Dieu vous a dit, tout ce que Dieu vous a enseigné, tout ce que Dieu vous a montré, tout ce que vous avez appris de Dieu repose sur deux commandements principalement. Aimez Dieu et aimez mon prochain. Vous prenez tout l'Ancien Testament, tout ce que vous avez là comme principe. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des choses super importantes pour la vie. On apprend dans l'Ancien Testament comment être heureux, comment honorer Dieu. On apprend comment élever nos enfants, comment avoir des couples heureux. On apprend comment vivre de saines relations humaines, comment parler à Dieu. On apprend comment gérer nos finances, comment se comporter dans nos relations de travail, etc., etc., etc. Mais tout ceci perd son sens. Et je dirais que la vie même perd son sens lorsque ma motivation derrière tout ce que je fais, tout ce que j'apprends, tout ce que j'entreprends n'est pas mon amour pour Dieu et l'amour pour mon prochain. Toutes les bénédictions qu'il y a dans l'Ancien Testament, toutes ces ressources pour nos vies perdent leur sens et même notre vie perd tout son sens lorsque ma motivation n'est pas principalement mon amour pour Dieu et mon amour pour mon prochain. On pourrait le résumer ainsi, la vie perd son sens si je n'aime pas Dieu et je n'aime pas mon prochain principalement dans ma vie. Nous avons été créés pour aimer Dieu et pour aimer notre prochain. Tout notre bonheur se trouve là. Et il y a de très fortes chances, si généralement de ce temps-ci vous n'êtes pas heureux dans la vie, pour que vous puissiez identifier ça comme étant la cause. Vos journées ne sont pas motivées par votre amour pour Dieu et pour votre prochain. Probablement que si vous n'êtes pas généralement heureux de ce temps-ci, depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, c'est que l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain n'est pas au cœur de vos journées. Fort probablement. Fort probablement. Chaque fois dans l'Ancien Testament que le peuple de Dieu s'est détourné de ses commandements, tout a commencé à mal tourner, à chaque fois. Et chaque fois que nous, aujourd'hui, comme chrétiens, perdons de vue ces deux commandements, les choses vont mal dans notre vie, dans nos relations au travail, à la maison, dans ma vie de prière. Je vais vous donner des exemples concrets, d'accord? Un exemple avec la prière, plusieurs exemples même avec la prière. Tu pries pour une situation au travail, ça va mal, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de la pression, il y a des tensions, quoi que ce soit. Tu pries pour une situation difficile au travail, des injustices que tu subis. Je prie là-dessus, mais j'ai perdu de vue l'amour pour Dieu et pour mon prochain. C'est certain que je prie mal. Je prie pour ma relation de couple, pour qu'il y ait des choses qui s'améliorent dans ma relation de couple, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles dans notre couple. Mais j'ai oublié ces deux commandements. C'est sûr que je prie mal. C'est certain. C'est certain. Je veux aider un ami à voir quelque chose qui ne va pas dans sa vie, mais j'ai oublié ces deux commandements. C'est certain que je n'aurai pas la bonne approche. Je dois faire un choix concernant ma carrière. Ça ne peut pas être plus concret que ça. Des avancements, orientation, avancement possible. J'oublie ces deux commandements. Je vais faire les mauvais choix, je vous le garantis. Et probablement que je vais le regretter. Parce que peut-être que ce sont mes ambitions qui orientent mes décisions. Toutes sortes de choses. J'ai juste perdu de vue ce qui doit motiver chacune de mes décisions dans la vie. Je vais prendre les mauvaises décisions et probablement que je vais le regretter. Probablement que je vais le regretter. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Tout ce que Dieu nous donne comme ressource dans la Bible dépend de ces deux commandements, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et si ma vie n'est pas orientée au quotidien par mon amour pour Dieu et pour mon prochain, ma vie n'a pas de sens. Et c'est sûr que ça va mal. C'est certain que ça va mal. C'est une question de temps. Maintenant, Jésus fait une déclaration qui est assez surprenante dans le passage ici. Après avoir présenté le premier et le plus grand commandement, il dit que le second lui est semblable. Suivez-moi. Après avoir présenté le plus grand commandement, Jésus nous dit que le second est semblable. Le premier et le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. On est des chrétiens. It makes sense. La chose la plus importante sur la terre, c'est quoi? C'est aimer Dieu. Je veux dire, si tu es chrétien, tu crois en Dieu, Dieu est au cœur, c'est ça qui est le plus important. Aimer Dieu, c'est le plus grand commandement. OK, Jésus, ça, j'étais capable de le deviner même. C'est le plus grand commandement. Rien ne doit jamais remplacer mon amour pour Dieu. Il est mon créateur, il est mon sauveur, comme on va le voir. Mais en quoi est-ce qu'aimer un collègue de travail est semblable à aimer Dieu? Est-ce que c'est seulement parce que c'est deux commandements qui parlent d'amour? Puis Jésus voudrait juste dire qu'ils sont semblables parce que c'est la loi de l'amour. Donc c'est la loi de l'amour, aimer Dieu, aimer ton prochain, c'est semblable. Et dans ce sens-là, ils sont semblables. Ou est-ce qu'il y aurait une relation plus profonde entre les deux? Est-ce que ça se pourrait que fondamentalement, il y ait un lien entre mon amour pour mon prochain et mon amour pour Dieu? Vous savez, c'est Dieu qui nous a tricotés, comme on dit au Québec. Et Dieu sait qu'on a besoin que les choses soient tangibles, qu'elles soient concrètes pour nous. On a besoin de voir, nous avons besoin de toucher. Et d'une certaine manière, aimer Dieu, c'est une chose. Me faire croire à moi-même que j'aime Dieu, c'est une chose. Je me rappelle au début de mon mariage, j'avais tellement des bons cultes personnels. Je prenais du temps avec Dieu, je lisais les Écritures, j'étais au ciel, kumbaya, Seigneur. Oh, c'était bon. Jusqu'à temps que je sorte de mon bureau et je croise ma femme. Puis là, on a un accrochage. Là, je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Le Saint-Esprit vient de me quitter tout d'un coup. J'étais là, j'étais dans mon bureau, j'étais en train de chanter des louanges à Dieu. Oh Seigneur, j'ai été transformé par toi. Je ne suis plus le même homme. Je rouvre la porte de mon bureau, je croise ma femme. Oh. Dieu sait que nous avons besoin que ce soit concret et que ce soit vrai. Alors, si Dieu me disait, Yannick, tu m'aimes autant que la personne que tu aimes le moins sur la terre, est-ce que ça deviendrait concret? Yannick, tu m'aimes autant que la personne que tu aimes le moins sur la terre. Et je suis certain qu'il y en a qui sont en train de décrocher ici. Là, vous dites, ça, c'est une phrase de preacher en avant qui essaie de faire des belles formules, mais ça ne se peut pas. C'est pas réaliste. Et si c'était ça, la pensée de Dieu? J'aime Dieu autant que la personne que j'aime le moins. Si c'était ça, ce serait tout un test, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup plus concret que lire ma Bible dans mon salon, puis là être électrisé par une belle pensée. Jésus m'aime. Ah, moi aussi, je t'aime, Jésus. Ah, je t'aime, Jésus. Ah, je suis près de toi, Jésus. Tu m'as transformé. Ça devient plus concret quand je rencontre quelqu'un face à face. Dans 1 Jean 4, les versets 20 et 21, je vous les lis. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Voici ce que l'apôtre Jean nous dit. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? D'une certaine manière, Jean nous dit ici, que ça peut être facile de se faire des accroire lorsqu'on parle de notre amour pour Dieu, de notre affection pour Dieu. On peut se faire croire à soi-même que nous sommes pâmés et que tout va bien avec Dieu. Mais le road test, c'est mon amour pour le monde que je trouve fatigant. C'est l'amour que j'ai pour les fatigants qui me dit combien j'aime Dieu. Avez-vous des fatigants dans votre vie? Vous savez, c'est les gens que c'est pas facile d'aimer. Je veux des noms ce matin. Donnez-moi des noms. À part le gars qui est en avant, d'accord? Celui-là, on le sait, on prend ça pour acquis. C'est mon amour pour les fatigants dans ma vie qui mesurent, qui me permettent d'évaluer à quel point j'aime Dieu. Dans quelle mesure j'aime Dieu. Et je suis certain que vous en avez des fatigants. Et peut-être que vous allez être tenté de me dire, oui, mais Jean ici, il parle des frères. Il ne parle pas, tu sais, comme des non-chrétiens, il parle des frères ici. Parce que c'est plus facile d'aimer les chrétiens. Hein? Ma femme est mariée avec un chrétien depuis 17 ans. Et en plus de ça, pour le meilleur ou pour le pire, elle est mariée avec un pasteur. Un pasteur, c'est un chrétien qui connaît tous les versets pour se justifier. D'accord? Vous lui demanderez si c'est plus facile d'aimer les chrétiens. Vous lui demanderez pour le fun. Mais soyons sérieux. Tournez avec moi dans Matthieu 5, verset 43. Matthieu 5, 43. On va aller voir les fatigants. Matthieu 5, verset 43. C'est Jésus qui parle et il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécute. » Moi, j'appelle ça des fatigants. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Aimez vos ennemis, faites-leur du bien pour être des fils et des filles de Dieu. » C'est ça qu'il vient de dire, non? « Aimez vos ennemis pour être des filles et des fils de Dieu. » Je trouve que ça ressemble beaucoup à « Yannick, tu m'aimes autant que la personne que tu aimes le moins sur la terre. » Yannick, tu ressembles à Dieu, tu me ressembles, tu ressembles à Jésus-Christ dans la mesure où tu aimes les fatigants autour de toi. Ceux qui sont difficiles à aimer, ceux que tu n'as pas le goût d'aimer. Et probablement que l'aspect le plus difficile, le plus challengeant pour nous dans ce passage, c'est que Dieu en fait un commandement. C'est un commandement qui nous est donné ici. En fait, deux commandements. Aimer Dieu et aimer mon prochain. Même quand mon prochain, c'est un fatigant. Voyez-vous, quand il dit « tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain », ce n'est pas une prophétie qu'il fait ici. Il n'est pas en train de dire « je vais tellement te transformer, tu vas voir, tu n'en croiras pas tes yeux, tu vas aimer tout le monde ». Ce n'est pas une prophétie, c'est un commandement. C'est un commandement qui nous est donné. Il nous est commandé d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et d'aimer notre prochain. Voyez-vous, selon les Écritures, l'amour est avant tout un choix d'obéissance au Seigneur. C'est à contre-courant de tout ce qu'on entend en général aujourd'hui sur l'amour. L'amour vient et va, puis lorsqu'elle est partie, fais tes valises. Attends de voir où elle se dépose encore. Tu t'installeras pour 3 mois. Puis tu referas tes valises. Suis l'amour là où elle va. Non. Du tout. L'amour, c'est un choix délibéré, intentionnel, réfléchi, d'obéir au Seigneur. C'est un acte d'obéissance. Jean Calvin, le grand réformateur qui a passé plusieurs années en exil pour protéger sa vie, voici comment il commente ces deux commandements-là. Il dit « Il s'agit d'un libre choix de notre volonté. Aimer Dieu et mon prochain vient d'un libre choix que je fais. Je fais le choix arrêté et intentionnel d'obéir à la parole de Dieu. C'est un commandement bien avant une émotion. » Et il y a des émotions liées à ça. Négatif ou positif, il y a des émotions liées à ça. Mais c'est premièrement un choix d'obéir à un commandement. Je dois choisir d'obéir à la parole de Dieu ou de me rebeller à la parole de Dieu. Je dois choisir entre les deux. Dans toutes les situations, et pour être très concret, c'est avec les fatigants. Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile de faire ce choix-là, d'accord? J'arrive bientôt à 40 ans. Je sais qu'aimer veut parfois dire souffrir. Et aimer veut parfois dire souffrir énormément. Énormément. À broyer toutes les larmes de ton corps. parce que tu décides de continuer à aimer. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, d'accord? Je suis en train de dire que c'est une décision d'obéir à Dieu ou non, ou de me rebeller envers Dieu. Ce que je vois dans le passage de Matthieu 22, c'est qu'il s'agit d'un choix intentionnel et arrêté d'aimer Dieu et mon prochain avec tout mon être, avec chaque molécule de mon corps. Lorsqu'il dit de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, ça veut dire avec la dernière de mes énergies, je décide d'obéir à Dieu et d'aimer. Et le plus bel exemple de ça, ce sera toujours Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémané. Ça va toujours être le plus bel exemple pour nous. Lorsque Jésus a dit à son Père, « Ta volonté et non la mienne », il y a un déchirement profond qui se produit à ce moment-là. Jésus-Christ est entièrement humain et il est divisé en lui-même. Toutes ses émotions lui disent, même sa volonté lui dit, « T'es complètement malade d'aller de l'avant. Arrête ça ici. » C'est ça la proposition que le diable lui avait faite, non? T'es le fils de Dieu, t'es pas obligé de passer par là, come on, t'es plus puissant que ça. Ne fais pas ce choix-là. Mais Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémané, a fait un choix d'obéir à son Père et d'aimer son prochain. C'est un choix qu'il a fait contre tout ce que son expérience lui disait. Il a fallu qu'il entre en lui-même, qu'il prie son Père et qu'il lui dise, « Père, ta volonté et non la mienne. » Parce que pour l'instant, si je m'écoute, on arrête ça ici. Là. Jésus sera toujours le plus bel exemple. Et lorsque nous, on arrive dans notre expérience quotidienne, souvent le cri qu'on lance à Dieu, c'est « Seigneur, c'est impossible. » Lorsque nous arrivons dans des situations de couple difficiles, lorsque nous arrivons dans des relations de travail difficiles, et vous savez, vous vous sentez comme enchaîné, avez-vous déjà été assez, excusez-moi de le dire comme ça, en joie le vert après quelqu'un, pour sentir qu'il y a une chaîne qui vient d'être liée entre cette personne-là et vous? Chaque fois que vous pensez à cette personne-là, il y a des liens qui sont là à l'intérieur de vous. Il y a une espèce de sentiment d'impossibilité. C'est au-delà de mes forces d'aimer cette personne-là. Quand je vais dans la prière, il n'y a comme pas de sentier, il n'y a pas de porte devant moi. Je suis devant un mur. Je voudrais le faire, Seigneur, mais il n'y a pas de porte. Il n'y en a pas de voie d'accès pour savoir comment l'aimer. C'est un mur devant moi. Je ne sais pas quel sentier emprunter pour me rendre à cette voie-là. Si je dois aimer, comme tu me dis, je ne sais pas, c'est impossible, je n'y arrive pas. Et dans un sens, c'est profondément vrai, ça. Dans un sens, c'est tout à fait vrai de dire que c'est impossible pour nous d'aimer quelqu'un qui nous a blessés, quelqu'un qui nous a offensés, et on sent qu'il y a des chaînes qui sont là. C'est, d'une certaine manière, surhumain d'obéir à ces deux commandements. Un jour, les disciples sont avec Jésus, et Jésus est en train d'exposer, est en train d'enseigner, puis est en train de dire ce qu'il faut faire pour être sauvé. Comment il faut vivre, comment il faut marcher et comment il faut se comporter pour être sauvé. Et à un certain moment donné, les disciples s'exclament, ceux qui connaissent Jésus. Ils connaissent tout son amour, d'accord? Mais là, ils entendent tout ce qu'il dépose comme fardeau. À quel point il faut être des êtres qui ressemblent à Dieu pour être sauvé. Et ils s'exclament en disant, « Qui donc peut être sauvé? » Voyez-vous, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, « Mais c'est impossible, Seigneur. Tu nous en demandes trop. Tu ne comprends pas de quoi on est fait. » Et Jésus leur répond, en Matthieu 19, 25, Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Alors, voyez-vous, d'une certaine manière, c'est vrai de dire que ces commandements-là sont au-delà de nos forces, que c'est impossible pour nous d'aimer des gens qui nous font du mal, qui nous ont blessés, et on sent qu'il y a des chaînes qui sont installées. C'est au-delà de nos forces. Nous ne sommes pas capables de cela. C'est surhumain d'une certaine manière. Et la raison pour ça, vous la savez certainement, c'est que nous sommes pécheurs. Nous sommes profondément pécheurs. Nous avons hérité de nos pères une nature pécheresse. Et lorsque Jésus dit « Aimez vos ennemis », ce passage se termine avec « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Je suis pécheur. Je suis né dans le péché. Dès que j'ai pu prendre conscience de mes actes, j'ai commencé à me comporter de manière égoïste. Je suis pécheur. C'est au-delà de mes forces de pouvoir faire ça. C'est contre ma nature. Parce que par nature, je suis pécheur et égoïste. Et sans l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies, nous ne pourrons jamais aimer vraiment. Il y a des jeunes gens ici dans la salle. Vous cherchez le grand amour. C'est louable. C'est super. Comment vous allez faire pour l'aimer, ce gars-là ou cette fille-là? Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Comment allez-vous faire pour l'aimer si Christ n'intervient pas dans votre vie pour vous transformer? Sur quoi vous allez vous reposer? Pour qu'il y ait encore de l'amour, un amour profond après 30 ans de mariage. Je vous le dis tout de suite, vous allez taper un citron, je vous l'assure. Une citronne. Mais ça va dans les deux sens, hein, vous comprenez? Ça, c'est une garantie que je peux vous donner. C'est la seule garantie que je donne dans tous les cours de préparation au mariage. Tu viens de pogner un citron, mon copain. C'est sûr. C'est très sûr. Très sûr. Pour ne pas dire amer. Comment vous allez faire pour l'aimer? Si Christ n'entre pas dans votre vie pour venir vous transformer en profondeur, sans l'œuvre de Christ dans votre vie, vous ne pourrez pas aimer. Oh, c'est bien au début, mais à un moment donné, il va devenir un des fatigants. Elle va devenir une des fatigantes. Comment vous allez faire pour l'aimer? Si Christ n'intervient pas dans votre vie, c'est impossible d'aimer Dieu et notre prochain vraiment sans l'intervention de Jésus-Christ dans notre vie qui vient nous transformer. Alors voyez-vous, tout l'amour que nous aurons pour Dieu et pour les gens autour de nous sera toujours une réponse à l'amour de Jésus-Christ pour nous. Je répète ça. Tout l'amour que nous aurons pour Dieu et pour les gens autour de nous sera toujours une réponse à l'amour de Jésus-Christ pour nous. Parce que c'est lui qui nous rend capables d'aimer Dieu, d'aimer nos ennemis et même d'aimer mon mari lorsqu'il devient mon ennemi parce qu'il devient fatigant et mon épouse et mes enfants et mes collègues de travail et mes parents et mes amis et les chrétiens autour de moi. Et comment est-ce qu'il fait ça? Premièrement, en nous aimant. On n'est pas capable d'aimer tant qu'on n'a pas été aimé de l'amour de Jésus-Christ. On n'est pas capable d'aimer comme ça, d'une manière aussi inconditionnelle, tant que nous n'avons pas été aimés par Jésus-Christ. Tant que Christ n'est pas entré dans notre vie. On devient capable d'aimer lorsque Dieu nous aime le premier, lorsque Christ nous aime le premier et qu'il vient pardonner nos péchés, tout notre manque d'amour. Et c'est seulement là qu'on devient capable de devenir des imitateurs de Christ. Le choix que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémané, c'est d'aller jusqu'à la croix et d'offrir sa vie en rançon pour nous racheter. D'accord? En faisant le choix de nous aimer, il a offert sa vie en rançon pour nos péchés, afin que nous soyons libérés de l'esclavage du péché et que nous soyons libres de marcher dans les voies de Dieu. La transaction qui s'est produite là, Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est une libération, c'est un rachat qui s'est produit, une rançon a été payée pour que nous soyons libres du péché et libres de marcher dans les voies de Dieu, c'est-à-dire d'aimer à notre tour. Voici ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre à Tite, Tite 2, versets 13 et 14. « Notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de tout péché et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Mes amis, ces bonnes œuvres, c'est d'aimer Dieu et d'aimer les fatigants dans notre vie. Nous avons été rachetés dans ce but-là. Parce que sans ce rachat, nous en sommes incapables. Profondément incapables. Vous allez essayer par vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Mais vous allez dire, c'est tellement lourd le christianisme. C'est des commandements impossibles à porter. C'est vrai, ils n'ont pas été donnés pour que tu les portes par toi-même. Alors si tu essaies de marcher comme un chrétien sans Christ, tu vas dire, mais c'est étouffant cette affaire-là. C'est abominable. Rester dans un mariage après autant d'années, sans Christ, c'est lourd. Très lourd. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et incapables d'aimer vraiment Dieu, notre prochain, comme il le demande, alors on peut recevoir le pardon que Christ nous offre. Alors on peut demander à Dieu, pardonne-moi parce que je suis incapable d'aimer vraiment. Et entre dans ma vie, viens me libérer de cet esclavage du péché pour que je puisse commencer à aimer enfin. Et alors commence la transformation pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et non seulement Jésus nous rend capables, mais il nous montre comment faire. Il nous enseigne comment faire. Il nous donne l'exemple comment aimer. Par la foi en son sacrifice pour nos péchés, Jésus vient nous transformer par sa vie et par sa mort. Il nous montre comment aimer. Alors non seulement il vient transformer quelque chose profondément dans notre nature parce qu'il nous donne son esprit au moment où nous croyons, mais il nous donne l'exemple et il nous montre comment aimer. Jésus-Christ est le parfait modèle de l'amour en ce qu'il a aimé Dieu son Père de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Il cherchait constamment à faire la volonté du Père. Chaque jour, il se levait en disant, « Père, je veux faire ta volonté aujourd'hui. » Et il était l'exemple parfait. Et il l'a fait jusqu'à la croix. Jésus a aimé son Père jusqu'à la croix. Mais Jésus a aussi été un modèle en aimant parfaitement son prochain. Pensez à ça un instant. Pour que le Fils de Dieu puisse aimer son prochain, il a fallu qu'il quitte l'éternité, qu'il s'incarne pour devenir notre prochain. Dieu le Fils est venu vivre sur la terre, il est devenu notre prochain afin de vivre vraiment, entièrement ce commandement d'aimer son prochain. Et comment il l'a fait? En mourant sur la croix. Alors non seulement il nous rend capable de le faire. Mais il nous dit, ça va être douloureux, les amis. Parce que si vous êtes mes disciples, vous allez prendre votre croix sur vos épaules. Vous allez vous charger de votre croix et vous allez me suivre. Je vous montre comment, d'accord? Ça finit pendu à un bois, des clous dans les mains, en agonie. Ça, c'est aimer ton prochain. Est-ce qu'il y a des fatigants autour de toi pour qui Jésus-Christ te demande de crucifier un peu ta chair, ton ego, tes intérêts? Est-ce qu'il y a des fatigants autour de toi pour qui Jésus-Christ te demande de te charger de ta croix et de suivre son exemple? Toute notre vie dépend de notre obéissance à ces deux commandements. Demain matin, lorsque tu vas te lever, et déjà tu es en train de penser à des gens qui sont si fatigants dans ta vie, qu'est-ce qui va motiver ta journée? Si vous aviez posé la question à Jésus-Christ, il vous aurait dit ce qui me motive chaque jour à avancer vers la croix. C'est mon amour pour Dieu et mon amour pour mon prochain. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, notre vie doit être motivée par notre amour pour toi, Seigneur. Et si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur Jésus. J'aimerais te prier pour toutes les personnes dans cette salle ce matin, pour qui ce langage est étranger, Seigneur. Ces paroles ne résonnent pas dans leur cœur. Ou pire encore, tout cela sonne comme de la pure folie. Un manque de sagesse d'aimer lorsqu'on est haï, d'aimer lorsqu'on est méprisé, d'aimer lorsqu'il n'y a pas d'amour qui vient en retour. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ne comprennent pas ces choses ici ce matin. Dans ta grâce, Père, je te prie de leur révéler Jésus-Christ. Viens, Père, leur montrer qu'ils sont incapables d'aimer comme ça, sans toi. Viens leur montrer, Seigneur, que le péché est bien réel dans leur vie et que d'aimer Dieu et d'aimer leurs ennemis inconditionnellement, ça leur est impossible. C'est au-delà de leur force. Révèle-leur déjà cela, Père. Viens leur donner cette conviction qui vient de toi, cette œuvre de l'Esprit, Seigneur, où ils pourront s'écrier enfin, « Mais Seigneur, c'est impossible! » Puis révèle-leur Jésus-Christ, la grâce du pardon qu'il y a en toi, Seigneur. Révèle-leur la grâce d'être pardonné, de voir toute la corruption de notre cœur et de se savoir pardonné et aimé par notre Père céleste à cause de Christ. Seigneur, je te prie pour tous ceux d'entre nous qui avons cru, nous avons reçu ton esprit, nous lisons ces passages et ça semble tellement irréel, Seigneur. Pardonne-nous, nous manquons de foi, nous nous sommes détournés de la croix, nous avons oublié la puissance de l'Évangile, Seigneur. D'une certaine manière, nous méprisons la puissance de ta résurrection pour nous transformer et la réalité de ton Esprit Saint dans nos vies, Seigneur. Viens, Seigneur, nous toucher de ta grâce afin que nous commencions à aimer nos ennemis. Viens, Seigneur, nous donner cette douceur et cet amour dans le cœur, ce pardon pour les fatigants autour de nous, Seigneur. Afin que nous ayons cette joie de voir que nous grandissons dans notre amour pour toi, Père. Que nous t'aimons davantage et de manière plus vraie. Viens faire cette œuvre, Seigneur, parce que toutes les prédications du monde ne produiront pas cette œuvre dans nos cœurs, c'est ton Esprit Saint qui va le faire. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen.